franceinter.fr.
Et la mission martienne InSight aujourd'hui à la une de la science.
Rendez-vous sur Mars.
4, 3, 2, 1, Mark.
Et ça, ce sera demain. Que se passe-t-il dans les profondeurs de Mars? La mission internationale InSight s'attaque justement à cette énigme avec à son bord des appareils de mesure inédits. Caroline Tourbe, on en parle aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes au téléphone avec Philippe Lognonnet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris et c'est vous le responsable scientifique de ce sismographe qui part sonder le cœur de Mars. Et puis, vous êtes déjà aux premières loges en Californie pour participer à ce lancement. Donc, c'est d'ici 24 heures maintenant que la mission InSight devrait décoller de la base Vandenberg de la NASA. Pour vous, en fait, c'est vraiment un rêve d'explorateur qui se réalise.
Oh, bah, c'est un rêve que j'ai commencé. D'abord, j'ai eu cette envie, cette idée d'aller dans l'espace quand j'étais enfant. Peut-être je fais partie un petit peu de la génération Apollo, de ces enfants qui ont regardé les premiers pas sur la Lune. Et par la suite, avec au tout début de ma carrière scientifique, juste après ma thèse, j'ai commencé à faire un post-doc au CNES, à l'Institut de physique du globe de Paris, dont l'objectif était déjà de faire de la sismologie sur Mars. Donc ça fait depuis 1989, donc presque une trentaine d'années que j'essaye de réaliser ce projet. Évidemment, c'est une grande satisfaction avec tous mes collaborateurs techniques et scientifiques d'y arriver.
Donc alors, l'une des grandes questions de cette mission InSight, c'est de savoir et de comprendre comment une planète, Mars, qui a été si semblable à la Terre il y a 3 ou 4 milliards d'années, comment est-ce qu'elle est devenue aussi inhospitalière?
Voilà, c'est vraiment l'enjeu de la mission, d'essayer de comprendre pourquoi une planète habitable, on sait que Mars était vraiment habitable, il y avait des rivières, il y avait des lacs, il y avait de l'eau, il y avait un champ magnétique, hein, tout ça pendant peut-être 500 millions d'années au début de sa formation, pourquoi est-ce qu'une planète tellurique comme ça, soudain, a perdu un petit peu toutes ses propriétés d'habitabilité. Alors, la clé, c'est vraiment la géologie, la façon dont la planète fonctionne, parce que finalement, là, la vie, si la vie était apparue sur Mars, eh bien, ça n'est que, qu'un passager d'une planète. Hein, et si la planète échoue, si la planète ne fonctionne plus, eh bien, c'est un petit peu de cette oasis qui disparaît.
Philippe Lognonnet, pourquoi est-ce que étudier les séismes sur Mars, ça nous renseignerait sur cette histoire, sur la structure interne de la planète?
Alors, les séismes, c'est finalement une façon de sonder l'intérieur de la planète avec les ondes sismiques. Les ondes, quand elles se propagent dans une planète, elles sont sensibles à la température, elles sont sensibles à la minéralogie, elles sont sensibles au fait qu'elles vont passer de la croûte au manteau. Et donc, on utilise vraiment les ondes comme une sorte de système d'échographie, un système de rayon X pour voir l'intérieur. Et à partir de ces enregistrements, on sera capable de voir la taille du noyau, de déterminer l'épaisseur de la croûte, de voir s'il y a des discontinuités dans le manteau, et donc vraiment de comprendre, de voir comment le moteur de la planète est composé. En plus, dans la mission, on a également une mesure de flux de chaleur. C'est des collègues allemands qui ont réalisé cela. Et ça va nous donner finalement la puissance qui s'échappe de la planète, donc la chaleur qui s'échappe aujourd'hui de la planète. Donc vous avez une image du moteur et puis vous avez la puissance fiscale du moteur, si je puis dire, avec la mesure de flux de chaleur.
Alors Philippe Lognonnet, quel est l'appareil qui va s'envoler demain et qui est le vôtre, qui va partir sur Mars alors?
Alors, bon, j'y ai contribué, mais évidemment, il y a plus de 200 ingénieurs et techniciens au CNES, à l'Institut de physique du globe, chez nos industriels, à Soderne, qui ont contribué à cet instrument. Donc, c'est vraiment un travail collectif. Donc, ça va être un instrument très sensible, qui va être capable de détecter des mouvements du sol inférieurs à la taille d'un atome à très longue période, qui est très protégé du vent, de la température. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on pense que sur Mars, les séismes sont relativement petits. Peut-être nous aurons quelques dizaines de magnitudes 4.5 par an. Donc il faut vraiment essayer de détecter des tout petits signaux.
Et donc il ne va y avoir que les séismes que vous allez enregistrer ou aussi d'autres informations?
Alors,
les météorites, par exemple, les impacts.
Voilà, c'est ça. Le sismomètre va détecter tout ce qui génère des vibrations du sol. Alors, on pense d'abord aux séismes, évidemment, mais il y aura des météorites, donc des impacts de météorites. L'intérêt, c'est que ces impacts vont laisser un nouveau cratère. Ce cratère, on pourra savoir où il est en le prenant en photo avec un des satellites qui tournent en orbite autour de Mars, hein, et donc du coup connaître bien sa position. Mais il y a aussi d'autres choses intéressantes. Par exemple, on pense que les tourbillons de poussière qu'on appelle des dust devils, hein, les tourbillons du diable, sont capables aussi de générer des ondes sismiques. C'est des ondes sismiques qui vont se propager à l'intérieur du sol. En même temps, elles vont générer un son. Et on a aussi sur cette mission donc un capteur de pression très sensible qui permet d'écouter tout le son de l'atmosphère. Donc c'est vraiment une mission qui va surveiller tout ce qui est émis par la planète Mars, hein, que ce soit à l'intérieur de la planète ou même dans l'atmosphère.
Et donc Philippe Lognonnet, combien de temps va durer cette mission ?
Donc, demain, à cette heure-ci, la mission sera en orbite autour de la Terre pour encore une petite vingtaine de minutes avant de partir vers Mars. Elle atterrira sur Mars fin novembre. Il y aura à peu près 2 mois de mise en place de tous les équipements. Et par la suite, la mission va fonctionner 2 années martiennes, c'est-à-dire une année martienne, c'est-à-dire un peu moins que 2 années terrestres, pour... j'espère continuer par la suite, parce que rien dans cette mission ne nous forcera à l'arrêter. Ça sera uniquement si on décide finalement de mettre les capteurs off à un certain moment.
Merci Philippe Lognonnet depuis la Californie à 24 heures donc du décollage d'Insight. Et on pourra suivre d'ailleurs, Caroline,
oui, on peut
le direct
regarder,
hein, du
à
décollage.
Partir de 13 heures, heure française. On peut regarder par exemple sur le site de la Cité de l'Espace à Toulouse et aussi évidemment sur le site de la NASA.
Voilà, merci beaucoup Philippe Lognonnet. Bonne chance à vous donc avec cette mission. Et puis Caroline Tour, merci beaucoup. Vous avez passé la semaine avec nous. Dès lundi, c'est Agnès Fèvre qui sera aux commandes de la Une de la Science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, notre résistance au froid qui nous donnerait des migraines. Une étude menée par des chercheurs britanniques et allemands fait le lien entre l'adaptation génétique de certaines populations au climat polaire et le développement de migraines chez ces mêmes populations. L'équipe s'est intéressée au gène d'une protéine bien particulière appelée TRPM8. Elle est connue pour son activation à basse température et pour son lien avec la migraine. L'équipe a analysé les données génétiques de populations en différents points du globe et elle a trouvé une corrélation entre une variante précise de ce gène et la latitude. Plus on monte vers le nord, plus cette variante est présente. Or, les populations les plus au nord, comme en Finlande, sont également plus sujettes aux migraines que les personnes originaires d'Afrique. Le risque accru de migraines associé à cette variante du gène est probablement un effet secondaire regrettable, selon les auteurs de l'étude. Alerte au slim fait maison, la pâte à malaxer gluante et élastique particulièrement prisée des enfants peut en effet provoquer des irritations sévères de la peau et des voies respiratoires. L'ANSES tire la sonnette d'alarme. La manipulation mais aussi la fabrication maison du slim ne sont pas sans risque. Dans le viseur de l'agence, les colles à papier liquide et les produits vaisselle conseillés dans les nombreux tutoriels sur internet. En effet, tous contiennent des conservateurs ou des substances parfois très allergisantes et irritantes pour la peau ou les poumons, surtout lorsqu'elles sont mélangées entre elles et manipulées pendant des heures. Et puis toucher une plante stresse ses voisines. Une étude menée par des chercheurs suédois s'intéresse à la communication des plantes par le sol. Les chercheurs ont utilisé du maïs qu'ils ont fait pousser dans des bains de liquide nourricier pour mimer le stress provoqué par la compétition entre plantes. Les chercheurs ont touché régulièrement les feuilles de l'un des pieds de maïs qui, se sentant à l'étroit, s'est mis à sécréter des molécules de stress dans son bain. Les chercheurs s'en sont aperçus lorsqu'ils ont plongé un nouveau pied de maïs dans ce bain. La jeune pousse s'est alors mise à faire pousser ses feuilles à toute vitesse et beaucoup moins ses racines, comme si elle était stressée par la compétition. Le langage des plantes n'a pas fini de nous surprendre.